I use a word, it means just what I choose it to mean.
Oui, le mot de passe, j'aime bien l'expression.
Les mots ont un sens.
Les mots ont un sens.
Les mots ont un sens.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
The yes needs a no to win. Again, the no.
Et ça ne signifie rien.
Il y a une instrumentalisation de tout ce que je dis.
Avec moi, vous parlez de choses sérieuses.
Mot de passe, un jeudi sur deux, 20h, Radio Campus Paris, sur le 93.9.
Une épidémie, une guerre, une réforme des retraites, de l'école ou des institutions, on les sollicite. Ils se répandent sur les plateaux de télévision et dans les colonnes des journaux. À chaque polémique, son lot de commentateurs autorisés. Pour chaque problème, quelques pointures à pointer ont la solution. Au-dessus de la mêlée, on les voit s'élever pour délivrer leur savoir. Ils n'ont pas d'avis, ils ont mieux, ils ont la science. Ce sont des spécialistes de leur domaine, des scientifiques incontestables, des techniciens hors pair, en un mot, des pros. Ils ne sont pas militants, pas idéologiques, pas intéressés. Ils ont remplacé l'intellectuel et ringardisent les philosophes. Ce sont les experts et on en parle tout de suite dans Mot de passe. Et pour en parler, nous accueillons François Cusset, historien, professeur à Paris-Nanterre et auteur récemment du Génie du confinement en 2021 aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonjour.
Bonjour.
Et nous accueillons également Renaud Lambert, journaliste au Monde diplomatique, co-auteur des Économistes à gages avec Serge Halimi et Frédéric Lordon aux éditions Les Liens qui libèrent également et co-scénariste du documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde à partir du livre éponyme de Serge Halimi. Alors, j'aimerais commencer cette émission du point de vue de l'histoire, en essayant de situer, peut-être avec vous pour commencer, François Cusset, comment, quand et comment est née la figure de l'expert ?
Ouais, c'est un mot, hein. Donc l'expert a toujours existé, s'il s'agit de désigner par là le spécialiste compétent dans son domaine. En revanche, comme personnage de pouvoir, c'est-à-dire comme pôle de référence de toute une époque et comme outil indispensable du pouvoir politique, je dirais qu'il apparaît sur la scène du pouvoir et des médias assez tard, c'est-à-dire dans les années 80-90, à la fin du XXe siècle, mais que ce qui prépare cet avènement, c'est un long demi-siècle, en gros, de collision du savoir et du pouvoir, de formation de cette espèce de fantasme technocratique de l'expert qui remplacera le choix politique. Et là, la genèse, elle est longue. On peut commencer à en parler, mais je veux dire, il y a de quoi faire, puisqu'il me semble que, comme dans beaucoup de domaines, l'événement fondateur, c'est bien sûr la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire à la fois l'usage des savoirs scientifiques au service de l'acte politique le plus direct, qui est la guerre, mais aussi la préparation dans les laboratoires militaires américains et puis ailleurs de l'après-guerre, qu'on espère post-politique, contrôler les humeurs et les affects humains qui mènent au racisme, à la guerre et au pire, grâce à un nouveau pilotage des sociétés. Et c'est là que naît ce mot grec de pilotage, pour dire ça à cette époque-là, c'est-à-dire la cybernétique, le kubernetes. Hein. Donc les premiers experts, pour moi, c'est ces ingénieurs, c'est les scientifiques souvent, qui, au milieu du XXe siècle, mettent au point différents outils, qu'il s'agisse des outils électroniques, le futur ordinateur, des outils en sciences sociales au service des pouvoirs, de la sociologie quantitative, etc., pour gérer, piloter, domestiquer, contrôler ces sociétés que le début du XXe siècle et les guerres mondiales ont révélées incontrôlables. Donc voilà, ma chronologie serait celle-là. On pourrait tout à fait opposer à ça le fait que le technicien de savoir au service du pouvoir est la chose la plus ancienne du monde, que ça existe en Grèce antique, sous l'Empire romain, et que Machiavel a très bien théorisé la chose d'ailleurs, puisque le conseiller du prince n'est pas un poète, mais bien un spécialiste. Enfin, la chose est ancienne. Mais voilà. Elle apparaît au grand jour et à grande échelle dans cette seconde moitié du XXe siècle.
Mais vous dites plus précisément concernant le mi-temps des années 80-90 que la figure de l'expert s'est peu à peu substituée à celle de l'intellectuel qui, lui, bénéficiait jusqu'alors d'un magistère moral sur les foules. Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé comme ça, à ce moment-là, de l'influence du magistère, de l'intellectuel, à celui de l'expert?
Alors,
déjà, qu'est-ce qui distingue l'un et l'autre?
Ce qu'il faut déjà préciser, c'est que votre question, c'est l'intellectuel au sens français du terme, dans la mythologie française de l'intellectuel généraliste, c'est-à-dire qui peut parler de tout et qui est d'autant plus sagace qu'il n'est pas compétent, justement. Enfin, c'est le spécialiste de la généralité, hein, le modèle sartrien, Zola, etc. Et que la crise politique, éthique de ce modèle-là, liée évidemment à la crise des gauches progressistes et des gauches révolutionnaires, enfin au déclin de toute cette période-là, de l'époque de deuxième tiers du XXe siècle, donc le reflux des luttes sociales des années 60-70, le tournant néolibéral, technocratique, tout ça, vont, non pas ringardiser d'ailleurs, mais mettre de côté, marginaliser, voire même discréditer moralement la figure de l'intellectuel généraliste, qui était quand même le plus souvent, pas toujours, un intellectuel critique du côté gauche des choses. Et c'est assez stratégiquement que les nouveaux experts, les consultants, les psychologues, les tautologues, comme je les appelle, vont se présenter en substitut de cette figure suspecte de l'intellectuel. En vérité, il ne faut pas vraiment les mettre en rapport, il s'agit de tout à fait autre chose, puisque l'intellectuel critique, a priori, dans un monde idéal, ne travaille pour personne, enfin, vaguement pour l'université, ou pour ses éditeurs, mais est censé ne pas être affilié ou attaché, donc être désintéressé, et juger avec précaution, justement, les savoirs spécialisés. Donc, l'expert à côté, c'est quelqu'un qui essaie de faire de l'argent avec du savoir-pouvoir, c'est pas la même chose. Mais ce que moi, j'ai analysé dans le bouquin sur les années 80, c'est le fait qu'à l'endroit exact où on voyait des intellectuels généralistes et critiques debout ou pas sur un tonneau, remettre en cause le système, hein, sur des plateaux télé, dans des émissions de radio, dans des auditoires publics. À cet endroit-là, sont apparus dans les années 80, voilà, ces experts, vraiment à cette place-là, qui, en gros, expliquaient qu'eux n'étaient pas dans la généralité, mais dans le savoir compétent. Eux n'étaient pas dans l'obscur ou le style littéraire, mais dans le réel, ce qu'il faudrait redéfinir, parce que ce n'était pas un réel très réel, que bref, ils étaient utiles là où l'intellectuel critique avait toujours été bavard et inutile. C'est une stratégie médiatique qui a bien marché, hein, j'en ai bien peur.
Ouais, si je peux réagir sur les deux points, mais je commencerai par le second. À mon avis, on peut opérer peut-être une autre dichotomie entre l'intellectuel et l'expert. Il me semble que si on prend un élément important sur le plan intellectuel qui est le comité central d'Argenteuil sur la culture en 66, on s'aperçoit d'une certaine fonction du savoir et de l'intellectuel dans le cadre d'un projet politique. À cette époque-là, le Parti communiste organise un comité central pour discuter de son programme, de sa conception de la culture. Et vous avez à la tribune de très grands intellectuels, Lucien Sèvres, Althusser n'y est pas, mais il a envoyé une contribution, Roger Garaudy, et vous avez... Vraiment, lire ces documents montre à quel point vous avez un savoir, mais qui est déversé au service d'un projet politique encadré par un parti. Alors, on apprécie ou on n'apprécie pas, mais là, vous avez un rôle d'intellectuel qui enrôle son savoir à la remorque d'un projet politique. Et d'ailleurs, ce congrès d'Argenteuil est conclu par Valdecrochet, premier secrétaire du Parti communiste de l'époque, qui fait une intervention qui, en termes de qualité, n'a rien à envier à celles qui ont précédé. Et on parle de très grands intellectuels qu'on continue à lire aujourd'hui pour leurs interventions. Si vous avancez maintenant, si vous avancez le temps à l'époque actuelle, ces figures-là, à mes yeux, ont largement disparu. Vous continuez à avoir des intellectuels critiques, des gens très importants, mais dont la filiation partidaire n'est plus la même. Et donc, vous avez la mise en avant, la promotion d'un contenu, d'un savoir qui est souvent extrêmement fin dans tout un tas de domaines, mais plus nécessairement asservi à un projet politique et à la mise en branle de ce projet politique. Or, vous pouvez avoir des travaux qui sont la pointe avancée du progressisme dans tel ou tel domaine, mais leur agencement dans le cadre d'un parti, leur sédimentation sous la forme de propositions qui sont acceptables par une population, c'est-à-dire leur transformation d'un point de vue théorique à une structure stratégique, me semble être un élément du rouage de la production intellectuelle progressiste qui ne se fait plus vraiment. Si je peux réagir à la première partie de ce qu'a dit François sur l'apparition du rôle de la figure de l'expert, c'est bon?
Oui, bon moment, vas-y. Ouais.
Bon, pour évoquer l'économie, qui est un petit peu le sujet que je vais essayer de traiter aujourd'hui, il me semble que le grand moment, c'est la fin des années 60, début des années 70, pour une raison qui, elle aussi, effectivement, comme l'a dit François, est liée au basculement qu'on observe à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la reconstruction d'un monde qui souhaite rompre avec ce qui s'est passé auparavant. Le patronat s'est vautré dans la collaboration, les médias également, et les phénomènes de spéculation, de financiarisation exacerbée qu'on avait observé auparavant sont identifiés comme des difficultés. La force politique est très puissante pendant une grande partie de la période qui s'ouvre, et les exigences économiques sont enchâssées dans un projet de nature éminemment politique. Tout ça conduit à des ambitions, des revendications sociales qui exaspèrent une partie des élites. Et à la fin des années 60, début des années 70, une partie des hauts fonctionnaires estime qu'il devient nécessaire, pour reprendre les mots de Friedrich Hayek, l'un des grands penseurs du néolibéralisme, de détrôner le politique, d'insulariser les gouvernements, c'est-à-dire d'encadrer l'exercice de leur souveraineté dans des exigences qui sont présentées comme objectives, comme s'imposant à tous. Et ces exigences sont de nature économique. Alors tout ça est mis en œuvre depuis l'appareil d'État par des hauts fonctionnaires qui, si vous voulez, détricotent la souveraineté de l'État, et dans les médias par cette figure de l'expert qui se présente comme au-dessus de la mêlée, n'étant ni de gauche ni de droite, mais se contentant de dire ce qu'il est possible de faire et c'est qu'il est de l'ordre du déraisonnable d'envisager. Et ça, cette fonction, si vous voulez, de pédagogie, de la soumission du registre politique à des exigences économiques qui sont acceptées comme on accepte le temps qu'il fait, tout ça est rendu possible par l'intervention dans les médias de cette figure de l'expert.
Mais c'est nécessairement un leurre, cette objectivité, vous n'y croyez pas, elle n'est pas envisageable.
Mais écoutez, l'un des plus grands défenseurs de l'idée selon laquelle la science économique serait une science neutre, c'est un éminent spécialiste français, Jean Tirole, qui est prix Nobel d'économie. Alors je fais des guillemets avec mes doigts, on ne voit pas à la radio, mais le prix Nobel d'économie n'existe pas. C'est un prix de la Banque de Suède en hommage à Alfred Nobel. Bon, disons qu'il est prix Nobel d'économie. Et lui a déclaré, je le cite, « L'économiste est neutre fondamentalement ». Alors j'ai ramené la citation d'une émission de radio, c'était sur France Inter, On n'arrête pas l'écho, au cours de laquelle Christian Chavagneux, journaliste Alternative Écho, s'était amusé à interroger cette neutralité de l'expert. Je vous le cite. Donc c'est Christian Chavagneux qui parle et qui s'adresse à Jean Tirole. « Vous déclarez dans votre livre qu'il y a trop de dépenses publiques, comme le MEDEF, qu'il faut limiter le nombre de fonctionnaires, comme le MEDEF, qu'il faut flexibiliser le CDI, comme le MEDEF, que le régime des intermittents représente une mutualisation sans fondement, comme le MEDEF, et ainsi de suite. Jusqu'à la question finale de Chavagneux, est-ce que votre science économique n'est pas un peu biaisée vers des intérêts privés? Mais refusant le constat, Tirole répond « Moi je dis ce que la science économique dit ». La science économique n'est pas une science du même type que la science, que la physique ou que les mathématiques. Bien souvent, elle relève d'interprétations de phénomènes sociaux dont on sait tous qu'ils sont soumis à interprétation, qu'ils sont soumis à des variables bien différentes de celles de la loi de la gravitation universelle. Donc oui, il me semble qu'on peut remettre en cause l'idée qu'il existe une science économique qui s'imposerait à tous tout le temps de la même façon. La science économique est une science sociale, elle doit donc être historicisée, replacée dans un contexte humain, et donc variable.
Oui, alors, merci Renaud d'avoir fait rentrer dans le cœur de l'affaire. Je pense qu'il y a une immense mystification autour de cette figure de l'expert. D'ailleurs, ouvrons une parenthèse sur ce qui pourra suivre dans la discussion, qui est que, autant on peut discuter de sa montée, son essor, sa planification même technocratique, là on est dans sa crise terminale, sa remise en question et la reconfiguration politique qui en suit. Mais,
à la suite de l'épidémie ?
Notamment, je pense, à révéler un État qui est déjà en fait profondément ancré dans les sociétés actuelles, qui est effectivement le discrédit terminal de l'expert. Mais en attendant son discrédit, il y a eu sa montée effectivement en puissance, et elle est effectivement liée à une neutralisation de sa fonction politique. C'est-à-dire, l'immense mystification, c'est cette histoire de la neutralité, c'est cette histoire d'efficacité économique pour remplacer la normativité politique, hein, le fait que la politique, ça serait un choix dans un sens ou dans l'autre, alors que la science ou l'expertise n'ont pas à choisir, puisqu'elles se contentent d'aller vers le plus efficace. Et en fait, il y a tout un langage qui est venu euphémiser la part idéologique évidente, enfin, la science économique, tout le monde sait voilà, qu'elle n'est pas naturelle et qu'elle est l'objet de choix politiques et d'une histoire politique très très claire. Et que ce qu'on appelle...
Ce langage, c'est le langage du pragmatisme, de l'efficacité
Alors, c'est le langage du pragmatisme, c'est le langage du réalisme. Donc là, il y aurait une généalogie philosophique et historique géniale à faire de ça. C'est-à-dire que le réalisme, en dehors de quelques courants plus ou moins convaincants en art contemporain, enfin, il faudra m'expliquer ce que c'est, c'est-à-dire de quel réel parle-t-on, elle se prévaut aussi d'une neutralité scientifique, c'est-à-dire la partie mathématique, démontrable, formalisable de l'économie, là où, effectivement, il suffit de faire 2 mois d'économie à l'université pour savoir que un théorème, une formalisation, succède à un choix politique. C'est-à-dire, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de l'économie redistributive keynésienne ? Est-ce qu'on parle de l'économie collective ? Est-ce qu'on parle de l'économie de marché de type capitaliste avancé ? Donc, en fait, ce qui est un choix idéologique et politique est déguisé en neutralité scientifique. La figure de l'expert, c'est vraiment l'avènement historique de cette arnaque, de cette mystification-là. C'est-à-dire, en fait... nous sommes tous du même côté, cessons de nous battre pour rien. La vérité est qu'on a besoin d'un savoir efficace et pratique après ces décennies de bavardage. Ce qui a été effectivement ce que Bourdieu appelle l'idéologie de la fin des idéologies, c'est-à-dire qu'on a déguisé en neutralité scientifique et axiomatique un choix idéologique beaucoup plus tranché que précisément dans les périodes antérieures, comme celle d'après la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait un vrai projet politique, par exemple en France. Là, il y a un tournant idéologique très très marqué, qui est en quelque sorte effacé, rendu quasiment invisible par cette mise en scène de l'expertise comme choix naturel, comme choix raisonnable, effectivement, transformation de l'économie en météorologie des mouvements financiers. Transformation de la sociologie en étude des comportements individuels du consommateur et du travailleur. En fait, on va, comme ça, horizontaliser tout un ensemble de phénomènes dont on oublie sciemment la dimension politique, verticale, de conflit. Donc en fait, on efface le conflit, on efface la lutte des classes et on le remplace par une pseudo-expertise. C'est de ça, voilà, qu'est née cette figure de l'expert.
Renaud Lambert.
Oui, on évoquait la crise terminale de cette fonction d'expert. Moi, je dirais que la crise financière de 2008 a joué un rôle considérable. Qu'est-ce qui se passe en 2008 ? Ça a été présenté comme la crise du libéralisme. La démonstration était faite à grand spectacle que la logique... Le règne des experts, la bonne gestion des États qui nous était présentée depuis, en somme, la chute du mur de Berlin, eh bien, cela nous conduisait à la catastrophe financière qu'on a connue. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue de l'expertise ? Eh bien, les mêmes personnes qui nous avaient expliqué que la mondialisation était heureuse, que la mondialisation fonctionnait, que finalement, en nous remettant aux mains des experts, nous faisions le meilleur pari possible, les mêmes personnes sont intervenues pour nous dire que non, décidément, le système était allé trop loin. Les mêmes personnes qui nous avaient dit « Keynes est mort » en référence à ces politiques redistributives d'intervention de l'État dans le pilotage de l'économie, « Keynes est mort, vive Milton Friedman », c'est-à-dire l'idée d'un laisser-faire total, néolibéralisme mis en œuvre de façon assez musclée au Chili à partir de 1973. Donc, « Keynes est mort, vive Milton Friedman », soudain, les mêmes personnes écrivaient des tribunes dans la presse pour nous expliquer « Friedman est mort, vive Keynes ». Ça doit nous conduire à nous interroger sur la fonction
d'expert. Et des intellectuels aussi ont changé d'avis.
Les intellectuels ont changé d'avis, sans doute, il a fallu prendre en compte. Mais certains intellectuels disaient de façon très anticipée, la financiarisation à outrance de l'économie va conduire à des déséquilibres qui nous précipitent vers le mur. Je voudrais terminer le raisonnement sur cette acrobatie rhétorique qui conduit des personnes à tenir un discours, puis son discours opposé le lendemain. Et il me semble que la démonstration qui a été faite à ce moment-là, c'est que, d'une certaine façon, qu'importe le discours que tient l'expert, dès lors qu'il tient un discours. Ce qu'il fallait absolument éviter à ce moment-là, c'est qu'un discours subversif, qui réellement tire les conclusions de la catastrophe que nous venions de vivre, et donc qui nous qui nous conduisent à transformer les logiques économiques qui présidaient au pilotage des sociétés, il aurait fallu que ce discours émerge. En opérant eux-mêmes les modifications à la marge qui permettaient de continuer à décrire le réel et à interpréter le réel pour les auditeurs, les experts conservaient le pouvoir. Et il me semble que, in fine, la démonstration de 2008, c'est que la politique n'est pas affaire d'arguments. Elle n'est pas, c'est-à-dire que ça ne se résout pas à la façon d'une démonstration. C'est affaire de pouvoir. Et François a évoqué la question de la lutte des classes. On a tenté de la dissoudre dans l'expertise et le savoir. Et à ce moment-là, elle a réapparu. C'était les mêmes personnes, défenseurs des mêmes intérêts de classe, qui tenaient un discours radicalement opposé à celui qu'ils avaient tenu quelques mois auparavant. Mais c'était important dès lors qu'eux seuls parlaient.
Ce qui doit nous, simplement nous rappeler que l'expert et l'expertise se définissent moins par leur contenu, qui honnêtement importe peu. Moi, je reviens toujours à cette blague de la carte de visite qu'il faut avoir avec écrit spécialiste. Hein, quel qu'en soit le contenu, c'est-à-dire on peut être spécialiste de tout, que par ce que l'expertise cache, dissimule, met de côté, relègue sur le second plan. Donc, en l'occurrence, une expertise de type micro-sociologique sur les comportements justement de consommation en économie a l'immense avantage de casser le schéma antagonique de la lutte des classes, c'est-à-dire de mettre de côté toute une vision possible. Donc, peu importe ce qu'on va en dire, ce qui importe, c'est ce que l'on cache. Et ce n'est pas le contenu qui compte, parce que ce qui compte, c'est effectivement la position d'énonciation. C'est-à-dire, c'est la façon dont un expert est désigné comme expert, dont cette position d'autorité est reçue comme incontestable, et surtout, dont elle tisse très très concrètement des réseaux de savoir-pouvoir qui sont... Ça, il faut en parler, c'est-à-dire des think tanks, des cabinets de consultants, des corps intermédiaires de type technocratie d'État qui, alors en France, se sont développés depuis très longtemps. Ça vient de loin, ça vient des années 50-60. Et c'est finalement cette armée invisible avec ces structures assez solides, parce que c'est des gens qui vendent du savoir à des pouvoirs, qui peut, au bout de la chaîne, désigner comme experts, y compris des gens qui ne sont pas plus experts que vous et moi dans quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est vraiment la position d'énonciation. Alors,
et en même temps, depuis le début de cette conversation, il y a un dénominateur commun quand même, j'ai l'impression, que vous dénoncez à propos de l'ensemble de ces experts qui sont dans une même ligne, une même accointance idéologique, en l'occurrence une économie libérale et un refus du marxisme ou de la lutte des classes comme façon de penser l'économie.
On peut déjà faire une réponse logique avant de faire une réponse politique, qui est que l'expert est l'expert de ce qui existe, de l'ordre existant, et des meilleures façons de le prolonger et de faire qu'il persévère. L'expertise en matière de possible, c'est-à-dire en matière d'ouverture d'un horizon imaginaire politique non advenu ou très peu advenu ou qui a du mal à advenir, est une contradiction logique. On ne peut pas être expert du conditionnel, par définition. Alors, la limite de ça, c'est qu'évidemment, le mauvais communisme, le communisme stalinien d'État, avait ses experts, ses planificateurs, et sa technocratie. Dont on comprend très bien, la contradiction logique. Donc, l'expertise est du côté de ce qui est ou de ce qui est au pouvoir, et des façons, pour le savoir, de soutenir ces logiques de pouvoir. Donc, déjà, première réponse. Ensuite... Non, il y a des experts de gauche. Ça dépend ce qu'on appelle gauche. C'est-à-dire que, là aussi, moi, dans mon histoire des années 80, je me suis amusé, c'était pas toujours très drôle, à aller voir ce que devenaient, ce qu'étaient devenus les gauchistes des années 60-70, qui étaient assez... qui avaient une sorte de carrière scientifique en sciences sociales, et qui ont décidé de passer du côté de l'entreprise, du consulting, voire du conseil des gouvernements. Et effectivement, ils ont fabriqué des artefacts qui ont l'air des artefacts plus progressistes, beaucoup plus sympathiques que les artefacts de la méchante économie de marché ou du pouvoir vertical, qui sont les familles de styles de consommation, qui sont le marketing pour se sentir bien, qui sont toutes les techniques psychologisantes pour aider à supporter la souffrance sociale, si vous voulez, qui sont des pansements variés, et qu'on peut appeler, alors experts de gauche, ils sont pas vraiment de gauche, c'est une gauche d'époque, c'est une gauche de pouvoir, mais ils ont présenté leur expertise comme douce et humaine, là où l'expertise des technocrates serait techno et inhumaine. Donc en fait, ces nuances-là existent. Ce qui est sûr, c'est que la filiation et la tradition critique, au sens noble, pas au sens je m'oppose, j'aime pas, mais au sens très précis d'une histoire de la pensée occidentale et pas seulement, donc qui passe par le 17, le 18e siècle, le matérialisme au 19e, etc., est l'histoire d'un ensemble de théories qui sont d'autant plus précises, fines et minutieuses dans leur logique qu'elles n'ont aucun champ d'expertise spécifique. C'est-à-dire que c'est vraiment dans la discipline philosophique qu'est née la théorie critique. La théorie critique en sociologie, c'est très compliqué, parce que comme là, on a un objet concret, comment on fait pour l'analyser de manière critique ? Donc, oui, l'approche critique sérieuse de l'État existant est incompatible avec une expertise détachée de l'ensemble, voilà, d'une partie du système. Donc là aussi, d'un point de vue logique, c'est peu compatible. Après, tout système de pouvoir produit presque naturellement son expertise, effectivement, sa sphère de savoir-pouvoir. Simplement, ce dont on parle, les alternatives qu'on évoque de très loin, n'étant pas advenues, ou très localement, ou de manière très éphémère, dans des situations de combat et de conflit qui font qu'elles n'ont pas été pérennes, il n'y a pas eu d'experts requis pour faire durer ces systèmes-là. Donc,
Allez-y.
Oui, je suis absolument d'accord avec tout ce que vient de dire François. Il me semble qu'on peut néanmoins évoquer peut-être une période assez récente où ont émergé des experts de gauche, ou pour le dire autrement, des contre-experts. Et c'est la période qui précède la crise financière de 2008 qui s'est caractérisée, je crois, en France par l'émergence d'une association comme ATTAC. ATTAC, une organisation qui apparaît, si je ne me trompe pas, en 1998. Il faut se souvenir du contexte de l'époque. Le Parti Socialiste est piloté par Jospin. C'est le Parti Socialiste le plus néolibéral que l'on ait connu. La gauche européenne est vraiment bleue. Il y a très peu de manifestations d'une gauche au pouvoir, à part des prémices de changement dans ce domaine-là en Amérique latine. Et ATTAC apparaît avec, d'une part, la volonté de faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire vraiment d'apporter un savoir à des gens pour qu'ils se mettent en mouvement, mais surtout d'offrir une contre-expertise. Donc ça, tout ça, c'est très important, puisqu'on nous bassine à longueur d'antenne avec des raisonnements dont ATTAC et les intellectuels qui gravitent autour font la démonstration de l'inanité. Mais il me semble qu'émerge, en tout cas dans une partie des gens qui ont pu militer dans ces organisations-là, l'idée que j'évoquais tout à l'heure, que finalement la politique, c'est une lutte d'arguments. Que si on arrive à démontrer à un expert qu'il se trompe, eh bien il en conviendra. Parce que la vérité s'impose, et une fois qu'on aura remporté l'argument, eh bien on aura remporté la bataille politique. Dans ce domaine-là aussi, il me semble que la crise de 2008 a fait la démonstration que cette contre-expertise, en tout cas une logique qui envisagerait le combat politique uniquement sous la forme d'une contre-expertise, et serait condamnée à l'échec pour la bonne et simple raison que, comme l'avait dit Marx, les idées déconnectées des masses ne restent que des idées, ne sont pas les outils dont on a besoin, quoi.
C'est le thème de la contre-expertise comme dimension majeure des nouvelles formes politiques contestataires mondiales depuis quelques décennies, est absolument central. C'est-à-dire, en fait, il y a une triple crise de cette fausse expertise. D'abord sur le plan économique, c'est-à-dire qu'on a quand même la révélation que le tournant néolibéral des années 80-90 est en fait un pur tournant de pouvoir, assez peu cohérent idéologiquement, puisqu'après la crise de 2008, que va faire l'élite néolibérale ? Réclamer de l'État, solliciter de l'État, faire la plus grosse levée de fonds publics pour sauver le système bancaire. Donc en gros, la haine de l'État, etc. Donc en fait, peu importe, ce qui importe, c'est la plasticité idéologique qui permet de maintenir un système au pouvoir. Et à ça répond non plus une gauche critique de type généraliste, justement, comme à l'époque de Sartre, mais des contre-expertises pointues, locales, précises, qui peuvent être d'abord juridiques, parce que à quoi on s'oppose très concrètement ? À des réformes et à des lois, donc il faut lire des textes de loi et en détricoter les principes cachés. Bon. De type politique et stratégique, c'est-à-dire comment on fait avancer une idée nouvelle ou une opposition réelle, mais aussi de type scientifique, parce qu'effectivement, la pseudo-science économique s'est trouvée là, remise en question. Les deux autres catastrophes mondiales qui révèlent que le roi est nu et que l'expertise n'en était pas une, était effectivement un instrument de pouvoir, c'est évidemment la catastrophe écologique qui, pour moi, encadre les deux autres précisément parce que c'est à la fois la plus spectaculaire et celle qui sollicite le plus le combat politique, en tout cas aujourd'hui. Et puis, cette catastrophe sanitaire du Covid qui a été le révélateur de ce dont on parle, puisque qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu une proportion importante, alarmante, selon les bons esprits, de gens qui ne sont pas tous complotistes, pas tous anti-vax, mais qui ont pu, alors là, pour le coup, de manière objective, remettre en question la légitimité du savoir scientifique comme lié soit aux intérêts politiques, une population domestiquée en période de confinement, soit aux intérêts économiques. Oui, il existe un lien entre l'industrie pharmaceutique et l'État. Il y a pas besoin d'être, enfin, on n'est pas complotiste pour dire ça. Et qui, de ce fait, et de façon finalement assez tranquille, sans hystérie, ont interrogé, on fait du Bruno Latour pour les nuls, c'est-à-dire qu'on ont interrogé
la part... Préciser un peu votre référence.
Non, mais on a interrogé la part de conflictualité, de vraiment le caractère polémique de l'engagement scientifique, et ils se sont dit, les experts médicaux, les experts aussi bien écologistes, enfin sur l'environnement et sur les solutions à apporter, capitalisme vert et tout, sont des experts qui ont partie liée avec un ensemble d'institutions de pouvoir, qu'elles soient économiques ou politiques, qu'il faut donc écouter avec précaution, avec vigilance, qui parfois disent tout et son contraire en très peu de temps. Hein. On mentionne tous le fait qu'au tout début de cette pandémie, on nous a annoncé que le masque était une très mauvaise idée, et puis 3 semaines plus tard que c'était la seule solution. Donc, et en fait, c'est des situations, et c'est normal, il ne s'agit pas de remettre en question le rôle de l'expert. En situation d'urgence, il est normal que la science se contredise. Mais
il s'agit de remettre en question l'homogénéité au sein des experts.
Non, ce qui est génial, c'est que simplement, ça dit une chose, c'est que la science n'existe comme usage social que si la conscience collective peut être amenée à en juger par elle-même. Or, dans des situations extrêmes comme la pandémie ou comme la catastrophe climatique ou comme la crise de 2008, là, tout un chacun peut en juger. Là, il n'y a pas besoin d'être expert pour voir que l'économiste s'est trompé, pour voir que le médecin dit n'importe quoi ou que le, voilà, ou que le capitalisme vert enrichit des gens plutôt que de résoudre le problème. Et à ce moment-là, la science est pour tout le monde. Et à ce moment-là, une contre-expertise, effectivement, enfin, des contre-expertise, des contre-feux locaux, activistes, militants, mais sérieux, se mettent en place. Et on est dans ce moment historique-là. On est dans ce moment où voilà, des contre-expertises fleurissent face au discrédit, mais au discrédit alarmant de l'expertise générale. Le problème, pour finir là-dessus, c'est que ce discrédit de l'expertise et de la technocratie, politiquement, pour l'instant, sert davantage l'extrême droite que des politiques de gauche.
J'allais y venir, c'est-à-dire pas l'extrême droite particulièrement, mais dans quelle situation se trouve le politique dans tout ça? Parce que le politique s'est mis, notamment au moment de l'épidémie du Covid, il s'est mis en quelque sorte dans la main de l'expert, dans la main des sachants, comme disait le président de la République. Et maintenant qu'il y a controverses, polémiques, désaccords, incertitudes de ce côté-ci, où retrouver sa légitimité?
Au moment de la pandémie, tout à l'heure j'ai évoqué un basculement dans l'enchâssement politique et économie. Il me semble que on peut observer un mécanisme similaire au moment de la pandémie. On aurait tout à fait pu imaginer un gouvernement qui se rapproche de scientifiques, leur demande leur avis, et à partir d'un avis difficile à formuler dans un contexte de grande ignorance, mais à partir d'un avis, d'une expérience antérieure, prennent des décisions de nature politique. Les décisions politiques et les décisions scientifiques ne sont pas toujours les mêmes. J'ai le souvenir très vif d'avoir vu à la télévision un chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne, au moment, je crois que c'était la première vague, un type qui de toute évidence n'avait pas dormi depuis des heures trop importantes, et qui, face à la caméra, expliquait que s'il fallait envoyer l'armée dans la rue pour imposer un couvre-feu à la population, eh bien, il faudrait le faire. Évidemment, le propos est atroce, mais d'un point de vue scientifique, il est logique. Est-ce que, parce que d'un point de vue scientifique, il est logique qu'il doit s'imposer aux dirigeants politiques? Absolument pas. Donc, la décision politique doit enchasser les logiques scientifiques de la même façon que la dernière poupée gigogne vient coiffer toutes les précédentes. Mais qu'a fait le pouvoir politique français à cette époque? Plutôt que de dire « nous avons entendu les scientifiques et à partir de leurs recommandations, voici quel est notre projet, voici quelle est notre ambition », ils se sont placés sous la responsabilité. Et absolument. Et ce faisant, ils ont plus ou moins activement, il m'est arrivé de penser que c'était assez activement, invité les sachants, reconnus comme sachants, à dire des âneries, notamment sur les masques, comme tu l'as dit. Et donc, ils ont à la fois discrédité l'action politique, qui doit piloter les différents secteurs de la société, les différents éléments qui sont disponibles, qu'ils soient sociologiques, scientifiques. Et ils ont aussi conduit à discréditer la parole scientifique. Il me semble que ça, c'est absolument grave. Et que ça facilite l'émergence de vérités alternatives, l'idée qu'il existe des vérités relatives. Et ça, c'est un phénomène qui, à mon avis, doit nous préoccuper. C'est que l'action politique ne se présente pas comme action politique, qu'elle ne se présente pas comme projet d'organisation de la société, mais qu'elle se présente comme seule action possible étant donné les contraintes existantes alentour, qu'elles soient de nature économique ou qu'elles soient de nature infectieuse. Non, l'action politique n'est pas contrainte par ces... Elle est évidemment bordée, tout n'est pas possible lorsque on est confronté à une pandémie, mais la marge de manœuvre du politique demeure, elle est très importante et doit être présentée comme telle. Les choix politiques sont des choix politiques, ce ne sont pas des choix scientifiques. Donc, il me semble que la parole politique s'affaiblit en se présentant comme sous la contrainte d'un savoir préexistant et parfois très ténu, comme dans le cadre de la pandémie.
Alors, si la question, c'est celle de la post-vérité et de la substitution d'un régime d'opinion généralisé, d'une doxocratie comme ça, au régime scientifique de vérité antérieure, oui, et ça dépasse effectivement les événements dont on parle, puisque d'abord c'est une montée en puissance bien plus ancienne, qui est liée aussi à un décentrement du savoir scientifique rationnel, une fois qu'il l'a servi principalement à rendre possible des ethnocides, des écocides, des plans d'extermination, la bombe atomique, et puis à la fin du XXe siècle, effectivement, cette rationalisation et financiarisation de l'économie productive. Effectivement, il y a ce discrédit-là. Maintenant, attention, la vérité n'existait pas avant. C'est-à-dire que le danger dans ces visions historiques rétrospectives, c'est qu'en fait, rôde toujours l'intuition que c'était mieux avant, mais ce n'était pas mieux avant. C'est-à-dire que il n'y a pas de vérité, il n'y a que des régimes de vérité ou des régimes de véridiction, disait Michel Foucault. C'est-à-dire, ce n'est pas du relativisme, ce n'est pas dire... La vérité est relative au pouvoir, c'est-à-dire que, je ne sais pas quoi, avant Galilée, ceux qui pensaient que la Terre était au centre de l'univers, c'était la vérité. Non, c'est un régime de vérité, c'est-à-dire lié à un certain état des pouvoirs, lié à des institutions scientifiques, lié à des besoins ou à des fonctions sociales, et puis lié à l'historicité de tout ça, puisque, heureusement, ça change et ça évolue. Donc, le régime de vérité antérieur, qui était quand même très eurocentré, voire occidental au centré, qui était lié à un régime politique et économique présenté comme unique et comme le seul souhaitable, donc l'économie libérale de marché, qui était lié aussi à la relégation dans les marges, voire dans l'invisible, de toutes les minorités possibles, qu'elles soient d'ailleurs sexuelles, c'est-à-dire la moitié de l'humanité, ethniques, etc. Donc ce qui rendait possible l'établissement d'une science dominante, ce que Husserl appelait la science européenne, c'était quand même ces opérations politiques d'élimination de ceux qui ne sont pas représentés par ça, ou d'élimination justement de pans entiers du savoir qui viendraient contredire ça. Donc oui, le roi s'est retrouvé nu, c'est-à-dire que ce savoir-là s'est retrouvé avoir partie liée, avoir la main dans le sac des intérêts économiques ou des intérêts industriels et médicaux. Sauf que là, on oublie un facteur, qu'on ne sait pas où placer, parce que lui, il ne rentre pas dans une logique monocausale, qui est le discrédit des vecteurs de diffusion traditionnels du savoir qu'étaient l'éducation, l'époque où on avait une société avec des médias de masse relativement dominants, en tout petit nombre, finalement lus et partagés par tout le monde, permettant peut-être pas un espace public, parce que c'était quand même pas très sympa à l'époque, mais qu'on se parle à peu près de la même chose, auquel donc le tournant numérique et capitaliste tardif a substitué un système où chacun, effectivement, a sa vérité, puisqu'il a son compte, son réseau, son univers social incompatible les uns avec les autres, et surtout sourd les uns aux autres. Donc elle est là, la doxocratie, c'est-à-dire qu'on peut raconter autant de bêtises, un Américain sur 5 est convaincu que le Parti démocrate est une cellule de pédophiles satanistes. Donc voilà, donc c'est quand même c'est des psychopathes, mais un Américain sur 5, ça veut dire quoi? 90 millions de personnes? Ou pas? Apparemment, d'après les sondages, parce que les algorithmes des géants du web favorisent ce type de polarisation très très forte entre des savoirs. Si vous cherchez islam sur Google, vous allez tomber sur des salafistes ou sur des islamophobes qui brûlent le Coran. Ce que font 98% des musulmans avec l'islam, c'est-à-dire une pratique modérée d'une religion, vous n'en entendrez pas parler, parce que les algorithmes veulent ça. Donc là, ce facteur, moi, je ne sais pas où le placer, or il joue un rôle essentiel dans le discrédit des savoirs, dans l'agenda, c'est-à-dire dans le fait que le projecteur est braqué sur tel ou tel aspect du savoir et pas sur tel autre, et dans l'expression... tous azimuts de la remise en question de tout par tout le monde, qui rend impossible effectivement un pôle commun de référence et de savoir. Simplement, il est évident que ce tournant techno, il se fait dans un cadre capitaliste et que les marchands du numérique ont intérêt à ce que ça se polarise à la post-vérité, aux fake news et à ce désordre sociopolitique général qui favorise ce loisir nouveau et absolu qu'est le réseau social. Mais il est évident que il n'y aurait pas eu de confinement, il n'y aurait pas eu de pandémie, en tout cas appelée pandémie, il n'y aurait pas eu d'interruption générale de l'économie à l'époque du Covid, sans les outils numériques permettant de télétravailler, de télésurveiller les citoyens, etc., etc. Donc il y a là un cadre technique qui n'est ni la cause, ni un élément secondaire, que je ne sais pas où placer, mais dont il faut tenir compte, parce que sans lui, la vérité à l'ancienne, le V majuscule de cette illusion-là, serait encore en place. Ouais.
L'émergence de la post-vérité, c'est avant tout une saine critique de la vérité assénée depuis longtemps par l'ORTF et les médias, désormais dominés par des milliardaires. C'est-à-dire que l'expérience quotidienne de tout un chacun est que les médias mentent. Et à raison, ils mentent très souvent. Il suffit d'avoir un tout petit peu de connaissance d'un domaine donné pour se rendre compte que ce qu'on vous raconte sur, je sais pas, la culture de la pêche ou bien les phénomènes économiques est une version biaisée, pas toujours destinée à défendre les intérêts d'un propriétaire de médias, mais toujours destinée à ne pas les abîmer. Donc ça, c'est une situation qui pose éminemment problème. Il me semble que la question de la post-vérité doit être lue à l'aune de ce phénomène préalable qui est une perversion de l'un des outils de fonctionnement de la démocratie, de l'émergence d'idées, de projets, la perversion donc du secteur des médias par leur privatisation à outrance. Alors, pas pour dire que les médias d'État étaient la panacée d'antan, mais répondre à la difficulté que présentaient des médias contrôlés par l'État en les privatisant et en les livrant donc à des marchands d'armes, à des milliardaires, n'est pas une réponse satisfaisante.
D'ailleurs, là-dessus, à mon avis, il y a deux pôles qui sont les vecteurs de diffusion d'une vérité scientifique légitime. C'est d'une part les médias du côté du pôle grand public et d'autre part la recherche, l'université, disons l'ensemble du pôle éducatif au sens large, incluant la recherche.
D'aucuns vous opposeraient qu'ils n'ont pas davantage confiance dans le service public que dans les médias privés.
Non, tout à fait. Mais d'ailleurs, de ce point de vue-là, je mets public et privé dans le même sac. Ça, peu m'importe. D'accord. Simplement, ce que je différencie, d'ailleurs, ça, c'est une différence à l'ancienne. Dans le monde d'après, le monde d'aujourd'hui, on ne fait plus cette différence. C'est information et savoir. Ce qui est déjà très contestable. Mais disons qu'il y a le monde de l'information venu des médias et le monde du savoir, en tout cas de sa transmission et de sa vulgarisation rationnelle. Voilà. Les deux institutions sont en crise. La première, par sursaturation de nos existences, par un flux de mise à jour de données creuses de tout contenu en permanence, qui vidant en quelque sorte le savoir de ce qui lui reste cette substance. Et le deuxième pôle, pas du tout la même raison, par saccage et dévastation politique délibérée. C'est-à-dire que, on peut prendre le cas de la France, mais il y a d'autres raisons ailleurs, mais l'institution scolaire et universitaire se porte extrêmement mal à gérer un afflux démographique complètement inédit, avec des moyens en réduction. Donc là, c'est pas une remise en question de complotistes qui ne font plus confiance au savoir objectif de l'université. Il se passe plein de choses super à l'université. C'est qu'on n'a plus les moyens de le diffuser et de l'acquérir, ce savoir.
Et néanmoins, il y a des polémiques au sein de l'université entre certains qui considèrent qu'il faut distinguer le savoir de la pensée critique et d'autres qui estiment qu'ils sont totalement intriqués et qu'on ne peut pas les séparer. C'est notamment le cas en sciences sociales. Donc ça rejoue en quelque sorte la porosité de la frontière entre savoir et parti pris, savoir et opinion, expertise et engagement intellectuel.
Oui, c'est
si monolithique que ça au sein de l'université.
Non, mais ce qui est sûr, c'est que j'espère qu'on a réglé la question au début de notre conversation en expliquant que le savoir neutre est un rideau de fumée qui dissimule les intérêts au moins institutionnels, peut-être pas idéologiques, mais au moins institutionnels. Et là, c'est là où je recite à nouveau Bruno Latour. Le regretté Bruno Latour a fait ses premiers ouvrages sur le quotidien. Une sorte de sociologie au quotidien des chercheurs en chimie dans un laboratoire en Californie. Et c'est un bouquin, en fait, très drôle, parce que le menu de la cantine du laboratoire,
lui aussi a des effets sur l'état d'esprit et sur l'après-midi de recherche. Donc en fait, il montre que la science, dans son désir d'exactitude et de vérité objective, est soumise à un ensemble de facteurs de causalité qui, eux, sont pas du tout exacts, pas du tout contrôlables, très aléatoires, et pas seulement politiques. C'est ça, parce que Latour, c'est pas un grand politique de ce point de vue-là. Il montre, voilà. Donc ça... ne pas l'oublier, voilà, c'est tout, il y a ça. Donc si les débats actuels sur l'université, c'est des faux débats, c'est des débats lancés par des idéologues réactionnaires pour faire croire que ce dernier bastion de l'autonomie du savoir, pareil, hein, il y aurait une vérité hors...
Vous ne croyez pas à l'autonomie du savoir, la neutralité axiologique en sciences sociales, vous ne croyez pas?
Non, je crois qu'il faut y aspirer, je crois qu'il faut donner les moyens institutionnels à l'université, par exemple, ou à la recherche d'une relative autonomie absolue, sûrement. Pas, ça ne faut pas rêver. En revanche, je ne crois pas qu'on puisse l'opposer à une démarche critique, qui est une neutralité, une sorte de scientisme objectif à opposer à une démarche critique. La démarche critique, souvenons-nous d'où elle vient. La crisis, c'est simplement, étymologiquement, le fait que le savoir est méfiance vis-à-vis des certitudes du moment, et le savoir est conscience de l'évolution temporelle de lui-même, c'est-à-dire du savoir. Hein, crisis, il y a une crise, donc nos certitudes changent. Dire ça, ça n'est pas avoir un couteau entre les dents, c'est du bon sens. Mais simplement, le problème, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que comme l'institution scolaire universitaire est en crise, les médias délirent et racontent n'importe quoi à coup d'algorithmes.
Oui, c'est un
sociaux,
recours imparfait, mais c'est notre seul recours, donc gardons.
Voilà, c'est-à-dire que si on... Oui, le savoir a longtemps été le point de vue d'une classe dominante, ou d'un intérêt, ou d'une Europe blanche, ou comme vous voudrez l'appeler, déguisée en neutralité. Par contre, ne pas acheter le bébé avec l'eau du bain, c'est on peut jeter ça, mais gardons les outils de la méthode critique. Et les outils de la méthode critique, c'est pas une opposition, c'est le déchiffrage des textes de loi, c'est se renseigner scientifiquement sur les dessous, les tenants et aboutissants de telle ou telle réforme ou crise. C'est en fait se fabriquer son autonomie intellectuelle. Et là, on est mal en point de ce point de vue-là.
Renaud Lambert.
Oui, moi, j'aurais tendance à vouloir souligner les mêmes phénomènes dans le champ des médias que
oui,
je connais mieux.
Vous êtes venu d'ailleurs avec vous allez pouvoir exercer et nous apprendre à exercer notre pensée critique sur un contenu.
Bah oui, religieusement. Je lis le Monde et dans l'édition. Pardon.
Le QVM.
Le QVM, le quotidien vespéral des marchés. Et dans l'édition donc qui est sortie aujourd'hui, la datée des 27 et 28 novembre. On interroge Olivier Blanchard, qui est l'ancien économiste en chef du Fonds monétaire international. Et donc, je voudrais vous dire deux mots de cet entretien. Et je vais vous dire, à mon avis, ce qu'il est clair. C'est-à-dire qu'il y a indubitablement un biais, sans doute, de la part de certains des journalistes qui gravitent au Monde. Je ne connais pas la personne qui a fait cet entretien. Mais il me semble que, on parlait des moyens à l'université, il me semble que la presse privatisée, et la presse publique ou les médias publics qui essayent de rentrer dans une concurrence en épousant le modèle des médias privés, souffrent d'un manque de moyens. Et donc, il est très facile pour un journaliste de faire intervenir un expert, de lui tendre le micro et de recueillir un propos sans vérifier. Et là, vous avez, dans un contexte donc d'inflation sévère, comme vous le savez, et de revendications très importantes en France et dans la plupart des pays européens, en fait dans la plupart des pays du monde occidental, une revendication pour une indexation des salaires, c'est-à-dire un mécanisme automatique qui fasse que les salaires amputés par l'inflation eh bien, soient automatiquement augmentés. Olivier Blanchard, donc, depuis son statut d'ancien chef économique du Fonds monétaire, nous explique que ça serait une erreur de faire ça, puisqu'il existerait un phénomène qu'on appelle de boucle prix-salaire, par lequel, si on augmente les salaires, à ce moment-là, il y a un rattrapage sur les prix augmentent davantage, donc il faut augmenter les salaires, ce qui produit une spirale inflationniste qui était bien connue dans les années 70, mais dont le FMI lui-même vient d'indiquer qu'elle n'existait pas dans le cas présent. Un journaliste, j'imagine, censé, qui aurait le temps de faire son travail, parce que la seule chose dont ont besoin les journalistes, c'est du temps et des moyens. Un journaliste qui aurait le temps de faire son travail pourrait poser la question à Olivier Blanchard, comment se fait-il que vous nous présentiez cette idée d'une boucle prix-salaire, alors que l'institution au nom de laquelle vous vous prévalez pour intervenir dans nos colonnes dit que ça n'existe pas en ce moment? Eh bien, il n'y a pas cette contradiction, donc cet esprit critique dans la presse, et le lecteur qui verra que cette personne est une personne nécessairement bien informée, qui a travaillé pour une institution éminente, nous explique qu'il y a un danger et sera conduit, cette personne sera conduite à penser que bah non, il faut remiser sa revendication d'une indexation des salaires. Et cet entretien, j'invite les auditeurs à le lire, puisque de la même façon, Olivier Blanchard explique que invite les gouvernements à se montrer responsables fiscalement. C'est-à-dire que depuis son expertise, il tire une recommandation de nature morale. Il faut être responsable. Et voilà, donc on disait que la figure de l'expert est en voie de disparition, en tout cas mise à mal. Elle existe encore dans les colonnes du Monde aujourd'hui, sous cette façon presque caricaturale.
Oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que dès qu'un économiste ou d'ailleurs n'importe quel scientifique se réclame d'une logique de spirale, en fait, de quoi il parle ? Il parle du prolongement formel, c'est-à-dire hypothétique, d'une courbe liée à un mouvement constatable aujourd'hui. Donc là, c'est de la logique là aussi pour les enfants. C'est-à-dire que prolonger dans un temps hypothétique un phénomène réel ne peut se faire qu'à condition inchangée, que dans un contexte inchangé. L'économie dans le monde d'aujourd'hui resterait dans un contexte inchangé, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de guerre, pas de catastrophe climatique, pas de phénomène politique, rien n'aurait lieu et on continuerait dans le même couloir, bien sûr que non. Donc là aussi, et là je pense que c'est de l'épistémologie de base, le journaliste devrait lui dire que ces conditions-là ne sont jamais réunies, et que donc l'idée même de spirale et de prolonger une courbe, qui est le grand mensonge des économistes, ne rencontre pas la réalité, puisqu'on est dans une hypothèse.
Bien, on arrive au terme de cette émission. Merci à tous les deux. François Cusset, je rappelle le titre de votre dernier essai, Génie du confinement, aux éditions Le Lien qui libère. Et je mentionne également un autre livre dont, en réalité, on a assez longuement parlé aujourd'hui, évoqué la décennie, le cauchemar des années 1980. Renaud Lambert, je rappelle le livre auquel vous avez contribué, Économiste à gages, coécrit avec Serge Halimi et Frédéric Lordon. Et puis, les auditeurs peuvent également utilement prolonger le débat et la réflexion qui a été amorcée ici en regardant le film que vous avez co-scénarisé à partir du livre de Serge Halimi, Les Nouveaux Chiens de Garde, qui illustre à bien des égards certains des propos qui ont été échangés ici.
Et qui est disponible gratuitement sur Internet en ce moment.
Donc profitez-en. Merci. We'll be right back.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind the blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. Bites back his heart on their anger. None of my pain or woe can show through.